nous vous invitons à suivre le journal en français. Sangoy, une présentation de Inès Longopo. Inès Lore, bonjour.
Bonjour Nina Vertiane et bienvenue à tous dans cette édition. Voici les titres. De violents combats sont signalés à 10 km de Bombari sur l'axe Ipi entre les forces loyalistes et les rebelles de l'UPC. Difficile de dire avec exactitude ce qui s'y passe en ce moment. Entre-temps, la ville de Baboua, située à 108 km de Boire, est totalement libérée ce matin par les Faka et leurs alliés. Les rebelles de la CPC se sont retirés de la ville depuis hier matin. Alors que les forces loyalistes poursuivent la reconquête du territoire, la MINUSCA indique que les casques bleus ne participent pas directement au combat et n'assurent que la protection des civils. Football, encore 3 jours, les Fauves de moins de 20 ans vont livrer leur premier match de la CAN U20 à Nouakchott en Mauritanie.
Inès, ouvrons ce journal avec ces violents combats en cours à 10 km de Bombari sur l'axe Ipi.
Oui, des combats entre les forces loyalistes et les rebelles de l'UPC. Armand Yanginti.
Hier, les forces armées centrafricaines ont démantelé la barrière illégale érigée par les rebelles de l'UPC au village Kumbélé à 10 km de Bambari Centre. D'après certaines sources, 2 assaillants ont été capturés au cours de l'opération de démantèlement de la barrière par les FACA, ce qui n'a pas plu aux rebelles. Or, selon nos informations, à l'arrivée des forces loyalistes à Bambari il y a 4 jours, les 2 camps se regardaient en chien de faïence. Et ce matin, un violent affrontement s'est éclaté entre eux. Jusqu'à midi et demi, les combats se poursuivaient. Il est difficile de suivre l'évolution de la situation sur le terrain car aucun réseau téléphonique n'est opérationnel. Cependant, la ville de Bambari Centre est calme, mais la psychose gagne toujours des esprits. Même si le commerce tourne au ralenti, même si l'administration est paralysée, les FACAs et leurs alliés russes effectuent des patrouilles pour rassurer la population. En rappel, plusieurs sources concordantes ont fait savoir que l'état-major de l'UPC est transféré depuis 1 mois de Bokolobo à Bambari.
L'offensive des forces armées centrafricaines, c'est aussi dans l'ouest. Les FACA ont repris le contrôle de la ville de Baboua, située à 108 km de Boire.
C'est une reconquête sans résistance. Selon nos sources, les rebelles de la CPC ont quitté Baboua hier aux environs de 11h et se trouveraient à 5 km au village Zungu sur l'axe Besson. L'arrivée des FACA et leurs alliés ce matin a suscité une liesse populaire. Un habitant joint par Oji Aubert Vopalanyawa.
La ville de Baboua a repris son activité quotidienne par rapport à l'entrée des forces des armées centrafricaines avec des alliés russes et des Rwandais. Toute la population de Baboua se trouve au bord de la route en train de faire leur joie pour la libération.
Présentement, les rebelles se trouvent dans la ville où ils ont déguerpi.
Depuis hier, environ 11h, les rebelles ont quitté la ville de Baboua envers Besson dans un petit village nommé Lungu qui se trouve à 5 km de Baboua. Là, présentement que je vous parle, il y a même l'hélicoptère des Russes qui sont en train de survoler sur les mangues. Ils veulent même descendre sur le goudron dans la ville de Baboua. Donc la ville de Baboua réduit vraiment son activité quotidienne.
On vient de l'apprendre à l'instant, les FACA ont aussi progressé jusqu'à Béloko et Contoni à la frontière avec le Cameroun.
Inès, le journal se poursuit pendant ce temps à Boire qui est passé sous contrôle des FACA. Depuis le début de la semaine, la vie commence à reprendre son cours normal.
Les activités administratives et commerciales ont également repris dans plusieurs secteurs. Ce matin, la ville est calme et la population continue de vaquer librement à ses occupations. Écoutons Jean-Norbert Niandé, sous-préfet de Boire.
Présentement, l'administration au niveau des autorités est déjà en place. Le préfet depuis hier était à son poste, le sous-préfet également avec ses collaborateurs et au niveau de la gendarmerie également. Ils ont nettoyé. Vous savez que ça fait plus d'un mois et demi où les choses étaient complètement au point zéro et donc il fallait vraiment mettre un peu de la propreté, ce que nous avons tenté de faire hier et même ce matin. Et même, il y a aussi quelques fonctionnaires qui ont fait des tours là pour voir un peu l'état des lieux, de leur édifice et tout ça là. Donc, de ce côté-là, on peut dire que nous avons bon espoir. Les choses vont aller dans le bon sens pour que les activités reprennent leur cours normalement. Surtout que nos partenaires qui sont arrivés ont vraiment redonné espoir, l'attitude et même le passage aussi du cardinal, tous ses collaborateurs de la plateforme religieuse. Vraiment, tout cela a rassuré un peu la population. Donc, il y a quelques-uns qui sont encore sur les sites présentement. Mais ils attendent seulement peut-être dans quelques heures ou bien quelques jours pour regagner leur domicile. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population, population de Boire, c'est qu'elle puisse faire confiance à nos forces de défense et de sécurité, et puis aussi aux alliés qui sont venus appuyer nos forces de défense et de sécurité.
C'est la même situation à Bouda dans la Lobaye. Les activités socio-économiques ainsi que la circulation des biens et des personnes ont repris dans la ville et ses périphéries.
Selon les sources locales, beaucoup d'institutions publiques et privées sont fonctionnelles depuis plus d'une semaine. Cependant, l'éducation a encore du plomb dans l'aile. Les parents regrettent que leurs enfants et les enseignants des établissements publics n'aient pas encore repris les activités académiques. Boniface Kata, ancien maire de Bouda, contacté au téléphone par Bonaventure Ngombakatikiro.
L'activité commence à reprendre petit à petit. Dans l'ensemble, d'après la reprise de la ville par les forces gouvernementales, les services de l'État commencent maintenant à reprendre. Je vois même le sous-préfet qui est là, le maire, les chefs de quartier, les différents chefs de service, l'hôpital, le marché et la gendarmerie, les polices qui sont opérationnelles sur le terrain, la pipe de l'eau et forêt, les douanes, tout ça, ils sont là, ils font leur activité. Le problème de l'éducation qui se pose présentement, il y a certains enseignants qui sont dans la ville, mais il y a certains qui ne sont pas là. Certains parents qui sont dans la brousse par rapport à l'information de l'événement qui devait se produire dans la ville, et il y a certains élèves aussi qui sont dans la brousse. Aussi, ils ont fui dans les petits villages, mais on voit que les autorités sont en train de faire un effort dans ce sens. L'information conduit aux certaines hiérarchies de nouveau de l'enseignement de crier à tous ces enseignants de revenir rapidement parce qu'on accuse déjà 2 mois de retard de l'école. Dans le privé, ça fonctionne présentement. C'est du sur la ville, au niveau des catholiques, au niveau des chartres, ça fonctionne bien. Mais c'est au niveau de l'État, présentement, au niveau public, qui est un peu de blocage. Le proviseur est en train de faire la sensibilisation, tenir une réunion dans les quartiers, il faudra que les élèves reprennent l'école. Les FACA, même les forces étrangères qui sont venues vraiment nous appuyer, ils sont là aussi dans la ville.
Inès parle aussi de la reprise timide des activités administratives à Bangassou après le retrait des hommes armés de la ville.
Les services administratifs ont de la peine à reprendre leur cours normal. Correspondance de Jean Balipio.
Après le retrait des hommes armés dans la ville de Bangassou, la reprise des activités administratives est loin d'être effective dans plusieurs services de la place. À titre d'illustration, les cours n'ont pas repris dans l'ensemble des établissements du fondamental 1 et 2, alors que les élèves sont en pleine année scolaire 2020-2021. De la préfecture au tribunal, en passant par le service des impôts et des eaux et forêts, les fonctionnaires et agents de l'État n'ont pas repris les activités. Cependant, le secteur du commerce et de la santé fonctionne en ce moment timidement. Selon le constat de Radio Ndekiruka, certains habitants commencent à regagner leur maison, tandis que d'autres sont encore dans la brousse ou en exil à Mdou, en République démocratique du Congo. Et Jean-Baptiste Bangassou, Radio Ndekiruka.
Les forces armées centrafricaines reprennent progressivement le contrôle des villes du pays. Alors Inès, que fait la MINUSCA?
Verdiane, la MINUSCA ne participe pas directement au combat dans les villes occupées par les rebelles. Elle n'assure que la protection des civils selon son mandat. C'est la réponse de la mission onusienne concernant sa cohabitation avec les rebelles de la CPC dans certaines localités de la République centrafricaine. C'était hier à l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Abdel Aziz Fall, porte-parole des forces, au micro de Emmanuel Samboli.
Par rapport au mandat de la force, nous avons des missions prioritaires. La priorité une de nos missions, c'est la protection des populations civiles. Et vous savez que quand il y a des combats, souvent, c'est les civils qui sont le plus en danger. Sur tout l'axe du corridor, que ce soit à Bossembélé, à Bossemtélé, à Boire, et dans toutes ces villes, des forces de la MINUSCA et des policiers sont présentes et assurent au quotidien des patrouilles afin d'assurer la sécurité dans ces villes où il y a le plus de population. Ces missions de sécurisation quotidienne et permanente ne peuvent pas être couplées avec la participation dans des offensives qui sont lancées par le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui a lancé une offensive, les troupes gouvernementales, contre les différents éléments armés qui étaient sur l'axe. Nous avons continué en parallèle à ces missions à assurer nos missions de sécurisation. Donc indirectement, on participe à la création de conditions sécuritaires, mais nous n'avons pas directement participé à ces combats.
Le centre médical Tristrand, désormais en mesure de traiter convenablement plusieurs autres pathologies.
C'est à l'issue d'une formation de 3 jours organisée la semaine dernière à l'intention du personnel soignant. Alexia Félix Amandi.
Selon Dr Paul Dibonard, coordonnateur du centre médical Tristrand, un médecin apprend tous les jours. C'est ce qui justifie cette série de formations sur les rappels des différents modules sanitaires au personnel soignant du dit centre médical Tristrand.
Nous voulons profiter de ces derniers temps parce qu'il y avait beaucoup de maladies qui beaucoup de gens ignorent. C'est pourquoi j'ai demandé à nos médecins, nos frères centrafricains, de venir aider nos personnels avec le renforcement des capacités, c'est-à-dire chauffer leur cerveau d'une manière quoi. Quand on est dans le métier de la santé, on a besoin d'apprendre. On a toujours le besoin d'apprendre juste n'importe quand.
À l'issue de cette session, le personnel soignant du dit centre médical a été essentiellement encadré sur le traitement du paludisme, le diabète, l'hypotension et bien d'autres pathologies. Georges Dibrego Mandaba, infirmier diplômé d'État, s'est intéressé à la stérilisation des matériels médicaux.
Ce qui m'a vraiment touché au cœur, c'est la stérilisation parce que je travaille beaucoup plus au bloc opératoire et quand un matériel n'est pas bien stérilisé, ça va porter atteinte à ce que le chirurgien fait. Donc, à travers cette formation, j'ai découvert beaucoup de choses et ça va me permettre de me perfectionner davantage dans ma profession.
Antoine Douindunga, chirurgien et superviseur du centre Tristrand, appelle soyons à mettre en évidence ce qu'ils ont appris.
C'est de dire aux participants de ne pas aller mettre toutes les notes qu'ils ont prises, les fascicules, tout ça, sous leur oreiller. Il faut que de temps en temps qu'ils jettent un coup d'œil pour permettre d'appliquer ce qu'ils ont appris pendant ces 3 jours. Et si jamais ils ont toujours des problèmes, qu'ils fassent recours aux facilitateurs qui sont des médecins exerçant à Bangui pour qu'on puisse leur apporter des solutions.
Le centre médical Tristrand situé au PK11 dans la commune de Begwa compte élargir ses activités sanitaires pour voler au secours de la population.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekeluka hors de nos frontières. Inès, au Ghana, le Parlement est fermé pour 3 semaines à cause du coronavirus.
Cette fermeture fait suite à la découverte de nombreux cas de COVID-19 parmi les députés et le personnel. 17 députés et plus de 150 personnes sont testées positives. La session sera reprise en début mars selon le président du Parlement.
Au Tchad, la famille de Hissène Abré s'inquiète depuis ces derniers temps sur une demande de grâce qui demeure sans réponse.
L'ancien président tchadien est toujours détenu au Sénégal. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Les victimes attendent depuis 4 ans des procédures de réparation. La famille se dit indignée du rejet de cette demande de grâce adressée aux autorités sénégalaises.
Au Mali, le Premier ministre rencontre pour la première fois la classe politique pour parler de la transition.
La rencontre a eu lieu hier pour évoquer le processus qui doit conduire aux élections inclusives et aux institutionnelles.
La page sport, football, il ne reste que 3 jours pour que les Fauves jouent leur premier match de la CAN U20 à Nouakchott en Mauritanie.
Les Fauves sont attendus en principe ce matin à Nouakchott où ils livreront tous les matchs de leur pôle B. Le stage bloqué au Maroc a pris fin hier avec 3 matchs amicaux pour 3 défaites face aux 2 clubs marocains et les moins de 20 ans du Cameroun.
Mais attention, si rien n'est fait à temps, le match RCA Mauritanie ne pourra pas se jouer à Bangui. La rencontre est prévu le 30 mars prochain.
C'est un match comptant pour la 5e journée des qualifications à la CAN Cameroun 2022. Le complexe sportif Barthélemy Bouganda qui devrait abriter ce match n'est toujours pas conforme aux normes internationales. La Fédération Centrafricaine de Football a effectué hier une visite guidée au stade. Bienvenue Bello a suivi l'équipe.
Les salles sont encore occupées par les services du ministère des Sports et l'UNASPORT. Les vestiaires dans un état de délabrement très avancé. Les exigences de la CAF ont été claires. Toutes ces installations doivent être réhabilitées avant un match officiel à domicile. Octave Mahamat Adjalo, directeur de cabinet du président de la Fédération Centrafricaine de Football qui a dirigé cette visite, est inquiet.
Les travaux qui étaient prévus pour l'aménagement du stade avant que notre sanction ne soit levée, ces travaux n'ont pas été faits. Aujourd'hui, nous sommes au point mort. Le sentiment que j'ai, c'est non seulement un sentiment d'espoir. J'ai le cœur serré, vraiment serré, parce que nous avons un dernier match important à jouer ici contre la Mauritanie. Et ce match-là ne nous laisse aucune autre chance pour notre qualification à la CAN si nous ne jouons pas ici à Bangui. Il y a un comité qui a été mis en place, piloté par le président du comité olympique. Ce comité a fait son travail. Le gouvernement a fait son travail en mettant rapidement 150 millions. Il était question donc de répartir les 150 millions entre les entreprises qui ont soumissionné. Une entreprise l'entreprise Le Convenant, je pense, qui a déjà perçu cet argent et qui n'a pas commencé au motif que les locaux restent occupés par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Selon les exigences de la CAF, les bureaux du ministre des Sports et ses collaborateurs doivent quitter le bloc des vestiaires. La fédération affirme avoir remis une somme de 8 millions de francs CFA pour faciliter le déguerpissement du ministère, chose qui ne s'est pas encore faite. Octave Mamat Adjalo.
L'entreprise qui a déjà perçu les 30% ne peut pas travailler parce que le ministère est encore là en train de travailler. Et la Fédération Centrafricaine de Football aussi a fait sa part, déjà en aménageant l'aire de jeu aux frais de la fédération à hauteur de 30 millions. Donc, il reste les locaux. Or, les locaux, le président de la fédération a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et Sport la somme de 8 millions de francs CFA pour les aider à se réinstaller dans les nouveaux locaux qui leur ont été attribués. À ce jour, à l'exception d'une direction générale, tout le monde est resté sans gêne.
Le ministère des Sports n'a pas encore réagi. Dans sa lettre du 30 avril 2020, la CAF a constaté que le complexe sportif Barthélemy Boganda n'est conforme aux standards internationaux. Selon nos informations, une visite de la CAF est prévue le 10 mars. En cas de non-conformité toujours, tous les matchs des seniors masculins de la RCA seront joués à l'extérieur.
Enfin, à Ipi dans la Waka, la 6e journée du championnat aller se poursuit également.
Oui, Verdian aujourd'hui à 15h à Grisport jouera contre Olympique Real de Mbrojo. Hier, Football Club Renaissance s'est incliné devant Sportif Club de Ipi 3-1. Ainsi s'achève ce journal en français sur les 100.9 FM Radio Ndeke Luka. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez branchés pour la version en langue nationale. Ndeke Luka, Ndeke Luka, Ndeke Luka.